Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre. Bonjour et bienvenue. Nous faisons aujourd'hui le portrait de l'écrivain hongrois Sándor Márai, 1900-1989. Un mot pour donner une couleur à la vie de Sándor Márai, celui de l'itinérance, européenne, quasi vagabonde dans sa jeunesse. Il fut alors la Terreur blanche. Puis Márai sera une nouvelle fois contraint de quitter son pays après la Seconde Guerre mondiale, dans un exil qui le mènera de New York à Salerne, en Italie, puis en Californie, où il se donnera la mort quelques jours avant la chute du mur de Berlin. Mais au-delà des circonstances politiques, le voyage était aussi pour lui une manière d'être, une appréhension sensuelle du monde, comme il l'écrit dans son journal, peut-être, dit-il, la seule vraie passion de sa vie. Traduite en partie seulement en français, l'œuvre de Márai est très vaste, de la poésie, du théâtre, des romans, souvent construits comme des thrillers autour de secrets de famille ou d'événements du passé, l'ascendant d'un être sur un autre, la violence psychologique, l'étrangeté de soi à soi-même et au monde. Voilà les thèmes dominants de son œuvre, comme vous allez l'entendre, dans ce portrait d'un intellectuel hongrois face à l'histoire, par Laetitia Le Guay et Ghislaine David.
Je me souviens assez bien, c'est des souvenirs qui sont très frappants même, de ce récit qu'il fait quand il marche après la guerre, à la sortie de la guerre, dans Budapest qui est complètement effondrée, les descriptions qu'il fait de cette ville dévastée, les ponts qui sont au fond du Danube, les maisons ravagées. Et je me souviens aussi naturellement, comment oublier ce passage, du moment où il rentre dans sa propre maison, cette maison où il a tellement écrit, où cette maison où il est devenu un des écrivains hongrois les plus célèbres. Il rentre dans cette maison dévastée, et dans cette maison, il ne trouve plus rien. Rien, sauf deux choses, un chapeau et une photo de Tolstoï.
Il faut dire que Márai, né en 1900, a vécu dans une époque particulièrement faste de la littérature hongroise. Il était entouré de génies.
Georges Kassai.
De géants, Kostolányi en particulier, Krúdy, à qui il a consacré un grand livre, Le retour de Sindbad. C'était l'époque du grand poète Attila Yosef. C'était l'époque de la grande revue littéraire fondée par Adi, qui s'appelait Nyugat, Occident.
Márai devient très très populaire en Hongrie avec la parution de la Confession d'un bourgeois. Et à partir de là, il passe de petits éditeurs au frère Révoy, qui est la grande maison d'édition, et qui lui dédiera une série. Pour moi,
András Kanyadi,
et pour beaucoup de Hongrois d'ailleurs, les meilleurs romans de Márai ne sont pas les mêmes qu'en français. Par exemple, en Hongrie, Le sommet de Sonar est un pastiche en ce qui concerne sa fiction. C'est le roman qu'il a dédié à son maître Gyula Krúdy, qui s'appelle Sindbad rentre, qui n'est pas traduit en français, je crois qu'il y a une traduction italienne déjà, mais qui est quand même assez hongrois, dans la mesure où c'est un ouvrage nostalgique dans le style de Krúdy, qui écrivait toujours sur la Hongrie historique, c'est-à-dire d'avant 18, et qui cherche le sens de la littérature, et qui cherche aussi le sens de ce que c'est l'identité hongroise. Inversement, le roman qui a eu le plus de succès à l'étranger, Les Braises, est considéré comme étant l'un des plus faibles de la production, de toute la production maraïenne.
C'était un grand monsieur, on devait faire pas loin d'1m90, très sportif, il jouait au tennis, il nageait beaucoup, et toujours impeccablement habillé, C'était un genre de dandy avec nœud papillon et, quand il est à l'extérieur, un imperméable. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une de ses biographies qui s'appelle « L'écrivain à l'imperméable ».
Ce n'était pas un très bel homme, mais il avait un physique intéressant, comme on dit, un visage très allongé, un air un peu triste tout le temps, enfin, un air un peu mélancolique avec deux grandes plis, comme ça, enfin, un peu amer le long de la bouche.
Séducteur.
Un peu dandy, oui, assez séducteur. Oui.
François Giraud, le point de départ de cet itinéraire de Sándor Márai, c'est la ville de Kassa, qui était en Hongrie, le royaume de Hongrie, puisque la configuration du pays n'a cessé de changer au fil de la vie de Márai.
C'est un point très important parce qu'il était très attaché à sa ville natale. Il a eu toujours une grande nostalgie. Ça revient presque constamment dans les écrits qui ne sont pas des romans. Toute sa vie, il en a été éloigné. Il n'a pu retourner dans cette ville que quelques jours pendant la Deuxième Guerre mondiale, au temps où elle avait été à nouveau rattachée à la Hongrie. Et il revient très très souvent sur des souvenirs d'enfance.
J'essaie de vous chercher cet extrait. Cet extrait tiré des Confessions. Près de cette frontière entre la Belgique et l'Allemagne, on devinait, ou plutôt on subodorait, qu'être bourgeois n'avait pas la même signification en Occident que chez nous. Qu'il ne s'agissait pas uniquement ici de disposer d'un appartement de 4 pièces avec chauffage central, d'une domesticité foisonnante, des œuvres complètes de Goethe trônant dans la bibliothèque, ni de maîtriser l'art de la conversation ou de connaître sur le bout du doigt son Tacite ou son Ovide. Tout cela ne constituait que l'épiderme de la vraie condition bourgeoise dont nous allions enfin découvrir l'essence. Oui, profondément embarrassés, nous pressentions non sans discernement qu'être bourgeois ne voulait pas dire la même chose à Nantes et à Kassa, que dans nos villes hautement civilisées de la Haute-Hongrie, nous nous montrions bourgeois avec l'application d'un bon élève, s'imposant quelques devoirs supplémentaires, et nous nous exercions sans relâche pour acquérir l'art de vivre dévolu à la bourgeoisie, alors qu'à Nantes, les gens pratiquaient peut-être tout simplement un mode de vie, libre de toute ambition particulière.
Ce qu'il faut voir, c'est une bourgeoisie
Balázs Ablonczy
assez proche de ses origines ou de son milieu rural, parce qu'on voit, il y a des nourrices slovaques, il y a les juifs, il y a une description très très fine des familles juives qui habitent dans la même cour que les parents de Márai, c'est-à-dire il y a les juifs orthodoxes, les juifs néologues, comme on dit, c'est-à-dire les juifs réformistes qui ont abandonné les habits traditionnels, etc., éventuellement la barbe et autres, et ont embrassé cette magyarisation. Et les 50 ans qui ont suivi, enfin jusqu'à la Grande Guerre, c'était véritablement un moment de modernisation pour le pays. Et le groupe auquel Márai et son père, enfin sa famille appartenait, était véritablement, on peut dire, en partie le grand gagnant de cette modernisation galopante, c'est-à-dire que son père, qui avait, comme on dit, un certain standing dans ce milieu de petite ville, qui était un juriste, était d'origine allemande, donc en voie de magyarisation, de devenir hongrois, d'assumer son identité hongroise. Et donc cette intelligentsia urbaine était en grande partie, soutenait la modernisation de l'administration. Et quand on lit sur les pages, dans les Confessions d'un bourgeois, on a une vie presque sociologique sur la société de cette ville, de cette grande ville de province, avec des attaches médiévales, mais qui prend un essor d'industrie, de point de vue de l'industrialisation et d'autres, à cette époque-là.
Ibolia Virag.
Il y a d'ailleurs un formidable livre de John Lukács, l'historien américain, qui s'appelle Budapest 1900, portrait historique d'une ville, qui raconte ce progrès, cette évolution extraordinaire. Il y a toujours eu cette espèce de mainmise des propriétaires terriens, ou alors de la gentry ou gentry, on dit gentry, de la part de la gentry qui étaient les fonctionnaires dans les institutions. Et la bourgeoisie était très peu développée, souvent d'origine étrangère aussi, allemande, tchèque, juive par exemple. Et dans notre histoire à nous, dans notre culture à nous, écrire donc sur la bourgeoisie ou s'occuper de bourgeoisisme, comme cela s'appelle chez Thomas Mann, est un programme positif. C'est la démocratie, c'est l'humanisme, l'amour de la culture, ainsi de suite.
Ce qui est assez frappant dans ces récits d'enfants, c'est une sorte de tension, de contradiction entre l'héritage, enfin les valeurs, et puis la nécessité de s'en arracher. Parfois de manière très très violente, comme le récit de cette crise de 14 ans.
Oui, oui. Le roman des révoltés représente aussi assez bien cette période de sa vie. Et puis ensuite, il y a la révolte de... Alors là, il n'était plus adolescent, il était jeune adulte en 1919, au moment de la République des Conseils, où il a participé à cette première République communiste. Après celle de Russie, bien sûr, il écrit dans les journaux révolutionnaires de l'époque. Et après cette période, qui a été très courte, hein, ça a duré 3 mois à peu près, on le retrouve en Allemagne, un peu poussé peut-être par son père ou de lui-même, pour, disons, ne pas risquer des représailles de la terreur blanche qui avait succédé à la terreur rouge.
Maharoï conclut un pacte avec son père de partir à l'étranger faire des études qui allaient être financées entièrement par son papa, qui était juriste et assez riche, contre un doctorat en philosophie. C'est ça qui l'a conduit dans les villes allemandes comme Leipzig et Berlin, et puis c'est ça qui l'a conduit aussi à Paris. Je crois que ce désir, cet exil intérieur s'est formulé dans son roman Les étrangers, et c'est cet exil intérieur qui l'a rendu aussi un écrivain conscient de sa mission d'écrivain. Il a pris la décision de devenir écrivain de langue hongroise, et déjà il a un projet de devenir écrivain européen.
Il est en principe parti en Allemagne pour faire des études de droit. Il va commencer aussi, pour gagner un peu sa vie, à écrire des articles pour la Frankfurter Zeitung, qui était un des très grands journaux allemands intellectuels de l'époque, hein, et également envoyer des chroniques d'Allemagne vers la Hongrie. C'est un petit peu ce qui va l'amener aussi à Paris, au départ comme correspondant de la Frankfurter Zeitung et de journaux hongrois. Je crois que c'est d'après sa femme. Il était arrivé pour 6 semaines et il y restera pratiquement 6 ans.
Un livre que moi j'ai beaucoup aimé traduire, c'est Les étrangers. Parce que ça donne une image de ce qu'a pu être la vie d'un exilé entre les deux guerres. Une vision presque à la Georges Grosse, en fait, qui donne une image un peu grotesque de la vie d'émigré.
Il fut brusquement saisi d'une douloureuse nostalgie pour une patrie dont il n'arrivait pas à déterminer la position géographique et qui contenait le Vermezzo, les rues de Bouddha, les départements japonais du Louvre, Rainer Maria Rilke, les usines de Billancourt, la chapelle Saint-Angelbert. Il regarda autour de lui comme pour demander de l'aide. Il fallait traverser la chaussée. Le feu vert s'allumait et, au croisement, l'agent de police les sommait d'avancer d'un revers de la main. Le guide s'arrêta devant l'agence de voyage en poursuivant son exposé d'un ton docte et monotone. Il faut faire très attention à ne pas déchirer les dents. Et cette mise en garde ne vaut pas pour les timbres saxons rouge vermillon à 3 groschen. À l'époque, les timbres n'étaient pas dentelés.
dès 1928, dès son retour en Hongrie, il était dans une aisance que lui-même il désignait par une expression un peu ironique, n'est-ce pas? C'est une expression qu'il a empruntée à Musil, à Robert Musil. En allemand, c'était le gut gehen des Schriftstellerei, qu'on a impossible de traduire en français. En hongrois, on le traduit sans difficulté. En français, c'est la condition de l'écrivain qui vit dans l'aisance.
Dans ce contexte, comment se situe la figure de Marais?
Ses articles paraissent dans Pestihir Lob, donc le journal de Pest, grosso modo, qui est un des porte-drapeaux ou porte-étendard du mouvement révisionniste, comme on disait à l'époque, qui est pour la révision des frontières, donc de retrouver certains territoires perdus au moment du traité Trianon. Et puis, il publie dans Wishag, qui est de l'opposition libérale au régime, mais en quelque sorte, Marais est, on pourra dire, est au-dessus de la mêlée, en quelque sorte. Il s'engage pas politiquement. Mais il est pas trop, il faut dire, il n'est pas trop aimé par la droite et par la droite extrême. Donc, parce qu'il est toujours considéré comme un type décadent, trop bourgeois, insensible aux grandes idées du temps, grandes idées soi-disant, enfin, que ce soit le national-socialisme, les totalitarismes, etc. Et ce qui est étrange, que ce genre d'accusation sera reprise après 1945 par les communistes.
Donc dans un autre sens.
Dans un autre sens. Mais pour eux aussi, Marais représente un groupe social dont l'âge est déjà révolu, à comprendre la bourgeoisie. Il est trop décadent, ses thèmes ne sont pas assez progressistes, etc., ne sont pas dans l'air du temps. Mais c'est un peu les critiques qu'on lui adresse déjà dans les années 30.
Au début, cela me faisait sourire de voir qu'on me classait toujours du côté opposé. Aux yeux des fascistes, j'étais un homme damné, destructeur, un agent de Moscou, etc. Aux yeux des communistes, j'étais un suspect. Un fasciste déguisé. Je dois être sur la bonne voie puisque je suis suspect pour les deux bords, ni fasciste ni communiste. Je suis simplement un homme qui n'a pas confiance dans la nature de l'homme, mais dans sa culture.
Le premier amour, les révoltés, les étrangers, l'étrangère, l'héritage d'Esther, divorce à Buda, la conversation de Bolzano, les métamorphoses d'un mariage. Liste impressionnante des titres d'une œuvre qui se développe autour des mêmes thèmes. Le triangle amoureux, le mariage, le bonheur impossible, le conflit entre générations, entre individus et pouvoir. Et encore, le secret que l'on ne saura pas, l'ascendant irrésistible d'un être sur un autre. Les Braises paraît en 1942, c'est le dernier roman de l'entre-deux-guerres, avant une longue période de silence. C'est aussi le plus populaire de tous les romans de Marais en France, celui qui a fait sa célébrité européenne. Le roman est adapté en pièce et donné en janvier 2003 au Théâtre de l'Atelier, avec Claude Rich dans le rôle principal.
Les Braises, c'est d'après un roman. C'est au Théâtre de l'Atelier. Et je crois, Claude Rich, que c'est un roman que vous avez lu, qu'on vous a remis. Comment ça s'est fait ?
C'est-à-dire, Sophie Cauchy m'a proposé, elle avait lu ce roman et elle a voulu me le faire lire. Bon, j'ai été passionné par ce roman. Conrad, le personnage de Bernard Verlet, s'enfuit quand ils ont 35 ans un jour et disparaît. Il quitte l'armée, il quitte ses parents, il quitte ses amis et il disparaît. Et alors, mon personnage en est, et Christine, ma femme, on en est complètement bouleversée pendant 41 ans, je finis quand même la guerre comme général de corps d'armée. Et à la fin de l'Empire austro-hongrois, je m'enferme dans ce château en me persuadant qu'il reviendra un jour. C'est impossible, il ne peut pas ne pas revenir. Et en 1951, on lui annonce qu'il rentre. Il est resté 41 ans, mais avec l'espoir que l'autre vienne et qu'il va avoir son moment, son heure et demie de dîner et de soirée pour s'expliquer et pour pouvoir enfin avoir cette... il a mis en scène ce retour.
Oui.
Tout est organisé. Et depuis des années, il a organisé avec son valet de chambre. Tout est prêt pour l'arrivée de Conrad. Et il y a une espèce d'exaltation à ce moment où l'autre va arriver et qu'il va pouvoir enfin savoir et en même temps lui imposer son idée à lui. Et alors, à la fin du spectacle, les spectateurs se demandent si quelle est la vérité, quoi.
Chez Maharaï, l'action est peu de choses. Tout ce qui se passe se déroule dans des endroits intérieurs. Et ce sont des réflexions internes. Et ça, c'est une caractéristique de son art, non seulement pour les Bresses, mais aussi dans les autres romans.
Éjfél után bejött szobámba Nunu. A mi házunkban még mindig nincs villany. Mama nem tűrte ezt a találmányt, és később, halála után, takarékosságból mindig halogattuk bevezetését. S Nunu éjféli látogatásai éppen ezért mindig kissé szimpadiasak. Most is úgy állott meg, kezében a pislogó égővel, borzolt őszhajával, éjszakai lepelben, mint valamilyen éjféli tünemény.
Je pense notamment à l'héritage d'Esther. Esther rend compte de son histoire d'amour avec un homme qu'il a
Gabriel Napoli
déshérité, enfin qu'il a spolié de peut-être de son être même. Et c'est cette parole qui s'exprime dans une sorte de monologue qui s'attache à retracer cette histoire d'amour impossible et destructrice.
Ce qui est assez étrange dans ce livre, comme dans d'autres, c'est la part du secret. En fait, on a l'impression qu'on est toujours dans le non-dit.
Cette façon de ne pas dire, justement, ou de passer sous silence les événements les plus importants, c'est enfin, peut-être une manière pour l'auteur de peindre des personnages qui veulent être sincères avec leurs sentiments. Je crois que c'est dans Mémoire de Hongrie que Maharaï dit que le seul moyen d'atteindre la sincérité, c'est le silence, que ce soit pour un écrivain ou pour un individu.
Ce qui est assez étrange aussi, c'est la façon dont les personnages sont comme mus par une force contraire à leur volonté.
Oui, sans doute que la psychanalyse a eu beaucoup d'influence sur l'auteur, ne serait-ce qu'avec Ferenczi ou évidemment avec Freud, mais je me demandais aussi si cette force dont vous parliez, on ne pouvait pas l'associer au caractère théâtral de son écriture. En fait, il y a quelque chose de très théâtral dans l'héritage d'Esther, il y a de multiples références d'ailleurs au théâtre, mais même dans la façon que le personnage a de prendre la parole. Et si cette force, justement, qui animait les personnages, c'était pas un fatum, enfin quelque chose qui relèverait d'un destin qu'on pourrait trouver au théâtre.
Il s'interroge toujours sur l'originalité de la psychanalyse. Est-ce que tout ça n'a pas été dit avant par Schopenhauer, par... Il cite un écrivain allemand du début du siècle, Bernet, qui a déjà découvert tout ce qu'il y a dans la psychanalyse. Et puis, pour les erreurs des psychanalystes, alors là, il est impitoyable. Ses romans sont souvent humoristiques. Son meilleur roman humoristique, à mon avis, c'est Un caractère de chien. Qui raconte, qui sous prétexte évidemment de parler de son chien, parle en réalité de l'humanité. Il adopte, il achète un tout petit chien qui se révèle être très méchant, qui torture ses maîtres. Et alors il ne sait plus quoi faire et à un moment donné, il rencontre une psychanalyste. Et la psychanalyste se met à psychanalyser le chien. C'est pas assez complexe. C'est les complexes du chien en particulier. Il pose la question. Oui, est-ce que vous vous déshabillez devant votre chien?
C'est pas...
Catherine Fay, vous êtes en train de traduire un 7e roman de Marail pour les éditions Albin Michel, ce qui représente de nombreuses années de compagnonnage, on peut dire, avec l'écrivain.
Justement, ce n'est pas un roman que je suis en train de traduire, c'est une chronique, en fait, que l'auteur a faite des années 38 à 48. En 2000, j'ai acheté en Hongrie, j'étais à Budapest et je suis d'origine hongroise, j'ai acheté un roman qui venait juste de paraître de façon posthume de Sándor Márai, qui s'appelle Libération en français. Et c'était l'histoire que m'a racontée ma mère, l'histoire du siège de Budapest. Et en fait, j'ai commencé à traduire Márai après avoir lu bien longtemps auparavant Les Confessions d'un bourgeois. Ce roman, c'était par affection pour ma mère, et puis parce que c'était très frappant, en fait, la ressemblance de ce qu'il écrivait et de l'expérience de mes parents. J'ai découvert un homme qui avait une relation assez étrange avec les femmes, par exemple. Les différents personnages féminins ne sont pas vraiment des femmes fatales, mais c'est comme si une fatalité accompagnait en fait toutes les relations amoureuses, en fait, et que cette fatalité soit subie, mais la plupart du temps aussi amenée en fait par la personnalité des femmes.
En même temps, les femmes sont décrites de manière étonnamment extérieure, presque comme des poissons dans un aquarium.
Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une espèce d'étrangeté en fait entre l'homme et la femme, comme si il s'agissait de mondes différents. Souvent, la femme est décrite, comme un être étrange et un petit peu malfaisant, en tout cas complètement opaque.
Cette période parisienne de ma vie baignait dans une atmosphère onirique quasi somnambulesque. Je subissais déjà le charme de la ville. Je commençais à pratiquer son argot. J'en avais saisi les menus secrets. Je me déplaçais avec une certaine familiarité dans ses ruelles. Paris me tenait et ne me lâchait plus. Vers minuit, je faisais de courtes haltes chez Prunier où, sans grande conviction, j'engloutissais une douzaine d'huîtres. Bref, j'étais en passe de devenir un vrai Parisien.
Peu avant la guerre, en 38, 37 ou 38, je crois, il a une espèce de tendresse pour le petit bourgeois français. Et ça, on le voit aussi dans Confession d'un bourgeois, le sens de l'économie. Et puis alors une certaine étroitesse de l'horizon. Mais en même temps, un grand respect pour l'ordre. Le livre que j'ai traduit et qui n'a pas encore été publié par Albin Michel, qui s'appelle Les Ulcérés, c'est un grand livre de plus de 400 pages qui commence à Paris. Paris, mais pas n'importe où, la rue Mouffetard. Il y a une description de la rue Mouffetard à l'époque, 1938, avec les odeurs. On est en plein été, les poubelles sentent mauvais, etc. Tout ça est très, très bien décrit. Mais en même temps, ce livre oppose la raison et l'ordre que représente la France à ses yeux, opposé à la barbarie hitlérienne qu'il pressent déjà très bien. C'est son premier livre vraiment anti-nazi. Et qui culmine avec le séjour à Berlin. Le héros s'en va ensuite à Berlin et assiste à quelque chose d'époustouflant, à quelque chose de très angoissant, un discours d'Hitler au Palais des Sports. Ça prend une vingtaine de pages. C'est ahurissant.
Quand arrive la guerre, l'alliance avec l'Allemagne nazie, les croix fléchées, Marail va se retirer en fait.
Marail se tait de plus en plus. Et c'est très étrange, c'est peut-être le seul moment dans sa vie, enfin bon, avec la courte expérience communiste, c'est le seul moment de sa vie où il s'engage en quelque sorte, pas politiquement, mais il publie un pamphlet sur la nécessité de l'éducation nationale, etc. Donc ça ne fait pas partie de son œuvre romanesque, mais c'est plutôt un pamphlet en 43.
Il est une figure d'opposant à ce moment-là ?
Oui, il était jamais trop bruyant, c'est-à-dire il n'a pas agité des drapeaux en disant que voilà, je suis un homme politique. Mais toute son attitude a reflété dans les journaux où il publiait, qui étaient tous interdits après l'occupation allemande en mars 44. Il reflétait le fait que bon, c'était un personnage d'opposition en quelque sorte. Et c'est juste après l'occupation allemande qui se tait. Et ses mémoires sur cette période sont assez parlantes à cet égard. Donc il se retire dans une résidence secondaire, dans une maison de campagne près de Budapest. Et c'est là qu'il survit en quelque sorte le siège de Budapest et le passage des troupes soviétiques.
Je pense aux descriptions de Budapest assiégée dans Libération, en une espèce de veine épique et lyrique à la fois du Danube, des ponts effondrés, de la guerre comme d'un monstre, une personnification de la guerre qui arrive, avec aussi tout le travail que je trouve assez poétique et frappant sur l'espace de la ville assiégée. La guerre, c'est d'abord en Europe, et puis c'est dans notre pays, et puis c'est le quartier, la rue, et puis c'est la guerre comme monstre épique et liée à la perte.
Dans ses journaux de 43-44, sa grande préoccupation, par exemple, je dis ça parce que ça m'a frappé à l'époque quand je l'ai lu, pourtant on est en pleine déportation, etc. Donc c'est à ce moment-là que la grande majorité des Juifs hongrois est déportée vers Auschwitz, les Juifs de province notamment. Et le grand problème de Marail, c'est qu'il ne peut pas acheter ses cigarettes préférées de marque Memphis. Enfin, on sent une certaine insensibilité, enfin j'avais cette impression-là en lisant cela, malgré le fait que sa femme était d'origine juive, donc était concernée de très près par ces mesures antisémites, port de l'étoile jaune, etc., et la déportation. Et après 1945, il a écrit d'ailleurs une sorte de suite aux confessions qui a pour titre « Je voulais me taire ». Et dans ce cas-là, c'est une confession extrêmement cruelle sur la déchéance morale de la classe moyenne hongroise, où il appartient d'ailleurs. Donc il se dit un écrivain bourgeois pour tout ce qu'ils ont fait pendant les années de guerre et comment cet avilissement de toute une classe avec l'antisémitisme, avec le pillage des biens juifs, avec l'accord tacite ou pas tacite d'une politique suicidaire, la démo extrêmement dure. Et en lisant la suite de ces journaux, par exemple, on se rend compte que ce n'est pas un jugement de circonstance, c'est-à-dire qu'il a gardé ce jugement pendant tout le reste de sa vie. Il disait que la classe moyenne hongroise ou l'intelligentsia, la grande majorité de l'intelligentsia hongroise a perdu tout droit pour jouer un rôle politique après tout ce qui s'est passé durant la guerre et notamment en 1944.
Il commence à non pas à se repentir, mais à se demander si ses conditions de vie correspondent vraiment à sa mission, à sa volonté d'écrivain. Bon, il y a eu le siège de Budapest qu'il n'a pas vécu parce qu'il s'est réfugié assez rapidement à la campagne. Tout ça est merveilleusement raconté, non seulement dans son journal, qui est un chef-d'œuvre, mais dans ce livre que j'ai traduit avec Zeno Bianou, qui s'intitule « Mémoire de Hongrie » et qui est un livre très intéressant du point de vue documentaire aussi, parce qu'il a vécu avec l'armée soviétique. Et le tableau qu'il donne de l'armée d'occupation n'est pas du tout répugnant. Il voulait absolument comprendre parce qu'on assistait quand même à un tournant de l'histoire et il voulait absolument avoir la conscience la plus claire possible. Et il était un grand lecteur de Spengler, « Le déclin de l'Occident ».
Dans « Mémoire de Hongrie », il y a vraiment des pages magnifiques sur la place de l'écrivain, la place de l'intellectuel, cet homme qui décide de réfléchir plus amplement à la question de l'altérité, de l'âme slave et de ce que cela peut représenter comme choc, comme rencontre violente avec la Hongrie. Je trouve que ces pages sont très touchantes et très belles quand on sait comment Marai a fini par décider de partir, alors même qu'il le dit à plusieurs reprises, il aurait voulu s'adresser en hongrois aux hongrois, mais on ne le lui permettait pas, on ne le lui a pas permis, en tous les cas la situation politique ne le lui permettait pas. Et donc je trouve que cette façon de se peindre en tant que témoin de la soi-disant libération, elle est très belle et très touchante et elle se mêle de propos souvent ironiques sur la place de l'intellectuel, justement.
C'est quand même étonnant que c'est le même Georges Lukács, le philosophe hongrois, qui a écrit un livre sur Thomas Mann et le bourgeoisisme chez Thomas Mann, qui écrit quelques textes très méchants au sujet de Marai après la Deuxième Guerre mondiale en prenant très au sérieux son rôle de censeur littéraire. Donc à partir du moment où ces textes ont déclaré Marai comme un écrivain bourgeois décadent, et il était clair, il devait être clair à Lukács aussi que Marai ne pourrait plus publier. Et c'était le cas. Ils ont mis ses livres au pilon, il n'a pas reçu de papier, il n'y avait, paraît-il, plus de papier pour son nouvelle œuvre. Il a compris qu'il ne pourrait que se taire sous ce nouveau régime qui s'installait. Il a été quand même poussé à la porte.
Marai assiste, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à cette prise de pouvoir, qui n'est pas immédiate d'ailleurs, des communistes, mais qui, en 1948, sera définitive quand, par le ministère de l'Intérieur, Rákosi arrive à prendre le pouvoir total et qu'on commence à liquider toutes les personnes qui ne sympathisaient pas avec le mouvement, en commençant par les social-démocrates. Et Marai, qui du coup devient ennemi de classe, puisqu'il représente les valeurs bourgeoises d'une société qui n'est plus aux commandes, se sent en danger. C'est l'une des raisons de son départ. Et il décrit très bien, d'une façon très convaincante, l'inquiétude générale qui s'était emparée de toute la Hongrie, où du jour au lendemain, les gens pouvaient être arrêtés, ils disparaissaient dans les caves de la police politique et où personne ne se sentait plus en sécurité. Qu'à l'époque, quand même, il s'agissait de s'engager aux côtés des communistes. Ça lui était tout simplement inconcevable. Et se faire une idée à quel point il tenait à ses propres valeurs, c'est jusqu'au bout, donc jusqu'en 89, il a refusé qu'on édite ses œuvres en Hongrie.
Daniel Rondeau.
Ses confidences, ses méditations sont un peu des méditations faites dans une catacombe, dans une cave sous les amoncellements de gravats. Et j'avais été très frappé par le fait qu'il parle naturellement de sa passion à la fois pour la culture, de ce qu'il disait sur l'Europe, cette Europe comme justification de notre existence ou comme nécessité. Et j'ai souvent repensé à cela. En même temps, c'est un écrivain qui a affronté de très près les deux totalitarismes.
Marais n'est pas arrivé en Occident en tant que réfugié, mais en tant qu'écrivain européen qui, pour ainsi dire, revendiquait le droit d'assumer sa complicité avec tous les crimes que les hommes d'esprit d'Europe avaient commis contre l'esprit. C'était un être singulier. Au lieu de se lamenter sur son sort de victime du communisme, il veut faire pénitence et témoigner de la déchéance définitive de la condition humaine. Mais il ne se contente pas d'un réquisitoire, il veut s'anéantir lui-même, comme Jean-Baptiste Clamence, le juge pénitent de la chute de Camus. J'ai toujours été fasciné par la gravité existentielle de Marais, qui a payé de son propre destin l'effondrement d'un monde. Kertész, l'Holocauste comme culture.
Peut-être parler un peu de son amour pour l'Italie. Il a quitté la Hongrie en 1948, après quelques semaines de séjour en Suisse. Il a loué, je crois, une villa à Naples, à Posillip, au-dessus de Naples, et il a consacré un de ses meilleurs livres, à mon avis, à la description de l'Italie, des Italiens. Il adorait les Italiens et aussi l'atmosphère un peu mystique de Naples avec les miracles, les églises, la misère, parce que c'était tout de suite après la guerre, la foi, la croyance en quelque chose de meilleur. C'est un livre extrêmement émouvant.
Vous parlez du miracle de San Gennaro.
Miracle de San Gennaro, oui.
Au début du récit, il y a pas mal de descriptions de familles dans certaines maisons, enfin du quartier dans lequel se passe l'intrigue. Avec effectivement il y a la description d'un enfant malade qui va finir par être sauvé grâce à des neuvaines qui vont être dites. Je pense qu'il y a certains lecteurs qui ont pu parfois être gênés par cette façon de magnifier la misère. Enfin, il y a quelque chose parfois peut-être d'un petit peu douteux, je ne sais pas si c'est le terme, mais je trouve qu'il est contrebalancé par l'ironie dont le narrateur fait preuve à l'égard de ses familles, notamment de ceux qui sont partis en Amérique mais qui finissent par revenir avec tout un tas d'objets qui n'ont strictement aucune utilité dans les familles. Je pense à un petit objet pour couper le haut de l'œuf à la coque et vraiment personne ne comprend comment on peut rapporter ça.
Et avec à l'arrière-plan un couple d'exilés.
Le couple d'exilés, oui, c'était lui et sa femme, bien entendu. C'est d'abord une atmosphère de nulle part, c'est pas une perte totale de ses racines, naturellement. Et surtout le fait qu'il continue à écrire en hongrois, il n'a jamais essayé, contrairement à d'autres écrivains hongrois qui ont essayé, comme Arthur Koestler, qui est devenu un grand écrivain anglais tout en étant hongrois de naissance. Lui, il n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit dans une langue étrangère. Il connaissait admirablement l'allemand. Il aurait pu écrire en allemand, mais il a une telle symbiose avec la langue hongroise que écrire dans une autre langue lui paraît une absurdité. Pendant son séjour en Italie, il n'a pas manqué de rendre visite à Benedetto Croce, par exemple, qui vivait également à Naples. Donc, on ne peut pas dire qu'il se désintéressait du pays dans lequel il vivait, mais Il y avait cet isolement complet, n'est-ce pas, au milieu. Un écrivain écrit dans une langue étrangère, publié en plus, parce qu'il était déjà publié en Allemagne, en Italie, mais continuant à écrire, à penser, à sentir dans sa langue maternelle.
L'étrangère, c'est le roman d'un personnage qui a tout abandonné, son travail. D'ailleurs, ce personnage habite à Paris. Hein. C'est un Hongrois d'origine, mais il habite à Paris, qui a abandonné sa femme, sa maîtresse, son travail, pour aller se reposer dans un petit endroit du côté de l'Adriatique. Il prend un bateau et la description de la mer est comme un cristal au début. Il y a cette comparaison de l'eau avec le verre. C'est plutôt un univers presque onirique, en fait, comme une espèce de nature rêvée, une nature réinterprétée, en fait. C'est comme si la nature enrobait le personnage ou la ville de silence.
Alors l'exil va le mener de Naples à New York.
Il était très heureux en Italie, mais il était très inquiet en même temps à cause de la force du Parti communiste italien. Et il en parle beaucoup dans son journal aussi. Et puis, ils avaient adopté un petit garçon qui avait 10 ans à l'époque. Et il pensait que pour ce fils adoptif, il valait mieux peut-être vivre dans un pays prospère qui offre des possibilités. La vie en Italie ne lui paraît pas très prometteuse pour un enfant. Alors c'est pour cette raison qu'il est allé d'abord à New York et ensuite à San Diego.
Je pense que son journal, c'est un peu sa forteresse. C'est-à-dire que c'est la littérature, c'est la culture. Et il faut comprendre aussi que c'est quand même une chose absolument anormale d'écrire en hongrois aux États-Unis. Donc il est enfermé là-dedans, mais bien entendu, le journal contient ses lectures, ses réflexions philosophique, mais il parle aussi d'événements contemporains et il parle aussi des événements qui se déroulent en Hongrie. C'est vraiment c'est formidable et j'espère qu'un jour le journal sera édité aussi en français.
Je l'aime beaucoup. Probablement son livre qui n'était pas traduit en français, qui est probablement incompréhensible pour un nom hongrois, qui s'appelle Sinbad retourne à la maison, qui est une pastiche de Gyula Krúdy, donc un condensé de Krúdy qui est magnifique, que j'aime beaucoup et j'emmène partout où je vais. C'est un grand personnage et parmi les rares personnages littéraires hongrois exilés dont l'œuvre pouvait retourner. Pour les Hongrois, ceux qui sont partis sont en quelque sorte morts. On a très peu d'exemples de retours littéraires après 90. Il n'y en a même pas, je crois, après 1990. Parce que je pense qu'il a écrit ce remonte qui n'existe plus, qui n'existait plus d'ailleurs dans les années 30. Donc quand il écrit, c'était la bourgeoisie ou la classe moyenne hongroise, déjà dans les années 30, représentait une petite partie, pas insignifiante, mais une petite partie de la société. Et les valeurs que Maharaj représentait étaient assez clairement des valeurs d'avant la Grande Guerre, qui était une ère révolue, mais qui est revenue en quelque sorte à la mode. Donc cette période de la monarchie austro-hongroise, à partir des années 80, on commençait à se dire peut-être c'était pas si mal que cela, il y avait une modernisation du pays, etc. Et donc Marahi, avec bien évidemment avec la force de ses paroles, avec ses œuvres, a pu revenir dans ce contexte où on a réhabilité en quelque sorte l'empire des Habsbourg.
Andras Kanyadi, finalement, si on voulait essayer de définir la voix de Sándor Márai dans le paysage des écrivains de la Middle Europa par rapport à Zweig, à qui il est souvent comparé, ou si on voulait le comparer à quelqu'un comme Canetti, qui est son exact contemporain, Elias Canetti.
Je crois que cette comparaison avec Zweig s'impose toujours parce que les deux écrivent sur les valeurs de la monarchie, en quelque sorte, et sur le monde d'hier. Mais je crois que Márai quand même est un écrivain assez complet, puisqu'il n'est pas qu'auteur de romans. En France, on le connaît surtout en tant qu'auteur de romans, mais il a écrit beaucoup de poésie, et certains de ses poèmes sont devenus des classiques de la littérature hongroise. Il a écrit des pièces de théâtre qui ont eu, dans les années 40, beaucoup de succès, et qui même aujourd'hui pourraient être jouées, Les Bourgeois de Cassouvie, par exemple. Il est aussi un essayiste, un penseur. Et ça, à nouveau, une facette inconnue en France, donc les épigrammes ou les maximes qu'il écrit dans son Herbier, par exemple, et qui le rapproche de ses auteurs stoïciens. D'ailleurs, Marc Aurèle était l'un de ses modèles. Je crois qu'il y a une complexité chez lui qui fait qu'il dépasse cette catégorisation un peu hâtive, peut-être, d'écrivain de crépuscule de la monarchie, et qui, certes, présente quand même des notes communes avec Zweig ou Schnitzler.
Je crois que c'était quelqu'un d'assez courageux, en fait, parce que, bon, il a pris cette décision en 48. Même avant, je pense, de partir. Il a eu une vie difficile. Après, il n'a jamais dévié, en fait, de l'intention qu'il avait eue au départ, c'est-à-dire de ne pas remettre les pieds en Hongrie tant que le régime soviétique était en place. Il a aussi été courageux dans sa façon d'en finir avec la vie. C'est quelque chose auquel il pensait depuis longtemps, depuis toujours. Et d'ailleurs, il y a souvent mention du suicide dans le journal, dans son journal intime. Et c'est quelque chose qui l'a accompagné aussi toute sa vie, une certaine mélancolie. Et il a mis fin à ses jours à un moment où il savait qu'il deviendrait dépendant, qu'il perdrait son autonomie. Donc
il s'est suicidé avec un revolver, comme dans Les Confessions d'un bourgeois, c'est-à-dire déjà...
Oui. Oui, oui.
Déjà jeune, sur la table du café où il écrit, il a un revolver et il dit « Il faut se méfier de soi-même, il faut que je me méfie de moi-même ».
Oui, mais il ne s'est pas méfié de lui-même. Il a été acheté un revolver parce qu'il vivait en Amérique à ce moment-là. Il a même pris des cours de tir pour ne pas se rater. Il a pris ce revolver et il s'est tué.
Vers 5 heures, la forêt flambait encore dans la lumière et le feu doré d'octobre. Mais avant que nous ayons atteint la fin du chemin forestier, les flammes s'étaient éteintes et une vapeur froide et une lumière sombre de crépuscule tombaient sur nous, sur la forêt et sur les clairières. Dans cette obscurité, nous commencions à nous presser. Nous parlions avec agitation, comme si était venu l'instant où il fallait vite, très vite, se concerter sur tout. Le sens et l'absurdité de la vie, le passé et l'avenir qui sont tout aussi funestes, le mystère que représente celui-ci et le mystère qui me représente moi, furieux, presque en criant, nous pressant sur le chemin forestier dans le crépuscule, dans la forêt d'octobre, sous les arbres déplumés, entre les ombres grises et échevelées. Dans la forêt, sur ce chemin funeste, nous coupant la parole, nous arrêtant et haletant, regardant l'autre dans les yeux, reprenant notre course, cherchant notre souffle, nous envoyant des mots, criant le texte de quelques disputes incompréhensibles. Et le vent mugissait. C'était l'instant où les arbres grandissaient, poussaient, oui, jusqu'au ciel. Le destin était dans tout, dans le crépuscule froid, dans le dialogue haleté, dans la hâte, dans la manière dont il tendait parfois le bras, comme s'il cherchait le chemin, comme s'il voulait demander de l'aide entre les arbres s'inclinant sous la tempête, criant au fond de la forêt profonde, perdu et cherchant de l'aide, comme s'il n'entendait vraiment rien d'autre, juste le mugissement du vent, la souffrance des arbres sombres, l'écho devenu cri de ses mots et le battement sauvage de son cœur. Ainsi marchions-nous sur le chemin du retour de la forêt. Au loin, au bord de la prairie, brillaient déjà les lumières. Alors nous nous sommes arrêtés et rentrés en ville. À mi-chemin, j'ai compris qu'une partie de la vie était terminée. Les 40 sont derrière moi. Et maintenant commence quelque chose de nouveau.
C'était Une vie, une œuvre, Sandor Mahai, 1900-1989, avec Balázs Ablonczy, historien directeur de l'Institut hongrois de Paris, Catherine Fay et Georges Kassai, traducteurs de Sandor Mahai en français, François Giraud, auteur du blog sandormahai.blogspot.com, András Kanyadi, maître de conférence à l'INALCO, qui a dirigé La fortune littéraire de Sandor Mahai, ouvrage collectif paru aux éditions des Sirtes, Gabrielle Napoli, collaboratrice à la Quinzaine littéraire, Daniel Rondeau, écrivain, journaliste, diplomate, et Ibolya Virag, éditrice, traductrice, spécialiste de littérature hongroise. Les textes de Sandor Mahai et Imre Kertész étaient lus par Vincent Németh, attaché d'émission, Laurence Jeunepin. Un grand merci à l'Institut hongrois de Paris pour son accueil. Prise de son Marcos Darras, Julien Douminck, Thomas Rollin, Antoine Vieuxsa, mixage Pierre Mine, une émission de Laetitia Leguet et Ghislaine David.
Nimm dich in Acht vor blonden Frauen. Sie haben so etwas Gewisses. Es ist ihnen nicht gleich anzuschauen, aber irgendetwas ist es. Ein kleines Blickgeplänkel sei erlaubt dir, doch denke immer Achtung vor dem Raubtier. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, sie haben so etwas Gewisses. Ein kleines Blickgeplänkel sei erlaubt dir, doch denke immer Achtung vor dem Raubtier. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, sie haben so etwas Gewisses.
C'est Une vie, une œuvre, aujourd'hui consacrée à l'écrivain hongrois Sandor Mahai, 1900-1989. Émission bien sûr téléchargeable et réécoutable sur notre site, de même qu'une partie de nos archives les plus récentes. Et puis sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver notre petit cerveau habituel qui retrace les inspirations des personnes dont nous parlons dans l'émission. Samedi prochain, rendez-vous à 16h pour un numéro consacré à une écrivaine allemande qui a fait tourner les têtes de Nietzsche et Rilke notamment, et dont on peut dire quel est le type même de l'égérie, vous l'entendrez, il s'agit de Lou Andrea Salomé.